Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chronicle avec aujourd'hui un invité, Thomas, qui va se présenter juste après. Mais d'abord, le thème de ce spécial qui va tourner autour des Power Rangers, la série qui est publiée actuellement chez Boom Studio aux US et chez Glénat Comics en VF, où pour l'instant 4 tomes sont uniquement disponibles. Il fallait que je trouve quelqu'un pour parler de cette série ô combien sous-estimée, mais vraiment très très bonne. Et c'est donc Thomas qui s'est joint à moi aujourd'hui. Comment vas-tu, Thomas?
Ça va très bien, merci, merci de m'avoir proposé ce podcast. Parler de série qui est assez mal aimée.
Exactement. Du coup, j'en profite un petit peu. Tant que tu es là, qui es-tu? Tu peux te présenter un petit peu rapidement pour ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être de te suivre ou qui te découvriront ici. Je te laisse te présenter rapidement.
Ouais, bah écoute, moi c'est Thomas. J'ai lancé. Il y a maintenant 3 ans, 4 ans, je sais plus exactement, le blog L'Entre-Deptiotique, déjà, pour parler de tout l'univers Valiant en VF, sachant que je lis extrêmement peu de VO. Donc, du coup, je parle vraiment dessus tout ce qui touche à Valiant en France. Et par la suite, quelques mois plus tard, j'ai lancé le blog Indélébule, qui, par contre, parle uniquement de comics indépendants et de dérivés, voilà, de séries, de choses comme ça, de films tels, bah voilà, typiquement les Tortues Ninja, les Power Rangers, ce genre de franchise-là. Donc voilà, j'ai lancé ça il y a un petit moment et puis bah ma foi, je fais mon bonhomme de chemin, j'arrive à trouver de nouveaux lecteurs petit à petit, puis voilà.
Ouais, ben moi je suis tombé dessus, je pense au tout début avec le blog de Valiant justement,
Ouais.
où au début on avait quand même un peu de titres Valiant, pas à profusion, mais leur actualité était quand même très, très régulière, on va dire. Et du coup je suis tombé dessus comme ça sur quelques titres que j'avais pas forcément lus, mais sur lesquels voilà, j'hésitais à y aller, et comme d'hab, quand on hésite, on aime bien avoir des avis. Et du coup, c'est comme ça que je t'ai connu, hein, sur les internets.
D'accord. Après, il y en a peut-être aussi qui m'ont connu sous mon ancien blog qui était avant Indélébule, qui s'appelait Tom Marvel, où je parlais exclusivement de l'univers Marvel. Donc le blog cartonnait, marchait très très bien dès le début. Forcément, je parlais d'un gros univers ultra connu, donc ça aidait. Et puis bah comme c'était un peu trop facile, j'ai voulu me compliquer la tâche, puis je suis passé sur l'indé, et puis c'est un peu, on va dire que ça a baissé. Donc
Oui, c'est
si jamais il y en
toujours.
a. Il y en a peut-être qui m'ont connu via Tom Marvel, ça n'a pas duré très longtemps, un an je crois, et après je suis passé un début.
C'est très compliqué, je sais. Enfin, moi aussi, via le blog, quand on sort des articles sur des séries un peu plus confidentielles ou qui ont moins d'aura, c'est tout de suite compliqué d'avoir l'attention, tu vois, du lecteur comics, on va dire, qui débute et qui forcément va se diriger vers du Marvel ou du DC parce que c'est ce dont on entend le plus parler quand on débute, quoi.
Ouais, c'est clair. Après, moi, ce que j'ai remarqué, je suis plutôt content parce que ça le faisait pas au début. Avant, j'avais un gros écart de vue, par exemple, entre les articles de toutes petites séries vraiment inconnues au bataillon et de séries un peu plus populaires en indépendant. Et depuis un petit moment, je me rends compte que les vues sont à peu près égales. Donc, j'ai l'impression que les gens vont un peu plus sur les séries plus confidentielles. Donc, ça va petit à petit, ça va. Ça arrivera jamais au niveau des Marvel, mais bon.
Ben justement, le lien est étouffé en parlant de séries confidentielles. On va enchaîner du coup sur les Power Rangers avec cette arrivée de l'univers en français chez Glénat avec le relaunch qui, si je ne me dis pas de bêtises, c'était 2015, il me semble que ça a débarqué.
Oui, je crois bien que j'ai vu cette date-là.
Il me semblait de mémoire. On a eu droit aux deux premiers tomes assez rapidement, un troisième tome qui a un peu traîné et un quatrième qui a énormément traîné. Avant d'attaquer et de parler un petit peu plus de la série comics en détail, je te propose de faire un petit historique de l'univers des Power Rangers. que ce soit en série télé, en film, et puis ben, en comics. Rapidement, au niveau des séries télé, je pense que tu as dû grandir avec la série télé des Power Rangers, peut-être la toute première, les Mighty Morphin. Mais c'est pas que ça, les Power Rangers, c'est chaque année une nouvelle saison avec des Turbo Rangers, des Ninja Steel, des Mega Force. Donc voilà, la série télé en elle-même est une série de Sentai, comme on appelle. À l'époque, c'était des rushs de séries japonaises qui étaient découpées et sur lesquelles on venait insérer des morceaux de tournage, enfin des morceaux de séries qui étaient filmés aux US avec des acteurs US. Mais toutes les séries de, enfin toutes les scènes de combat étaient faites par les Japonais, quoi, sous les costumes de Rangers. On a eu dans les années 90 un engouement pour tout ce qui était Power Rangers, spécialement et en particulier avec le Club Dorothée qui mettait quand même ça plutôt en avant. On a eu droit à un film qui est sorti dans les années 90. Moi, j'en garde un très très bon souvenir. Je ne sais pas si toi tu l'avais vu.
Non, moi je ne l'avais pas vu.
D'accord, moi j'avais été le voir au cinéma, j'avais tanné toute ma famille pour m'amener voir Power Rangers. Je crois qu'à part moi, tout le monde râlait parce que ça devait être un truc horrible, je pense que si je le regarde maintenant, ça doit être un petit peu, ça a dû peut-être un peu mal vieillir, quoi. Mais voilà, j'en garde un très bon souvenir, et du souvenir que j'en ai, en fait, c'était les mêmes acteurs que dans la série télé des Power Rangers. Et donc le lien pour moi était fait, parce que je retrouvais ce que je voyais le mercredi matin ben, sur un grand écran au cinéma, quoi. Pour tout ce qui est un petit peu histoire des Power Rangers, je vous invite grandement à regarder le documentaire qu'il y a sur Netflix, The Toy That Made Us, qui justement a un petit épisode sur les Power Rangers aussi.
Sympa. Ah.
Tu l'as vu, toi ?
Ouais, je l'ai vu. Bah, j'ai regardé toutes les saisons, là. Bon, il y en a, je te cache pas que l'épisode sur les Barbie, j'ai un peu switché, Mais non, c'est vachement bien fait et ils reviennent bien sur la genèse des trucs, c'est bien foutu.
Ouais, complètement. Et du coup, voilà. Si jamais vous voulez vraiment en savoir plus, je pense que cet épisode, ça peut vraiment mettre un pied à l'étrier pour justement aller chercher un peu plus d'infos sur tout l'univers. Et donc, on a découlé aussi des BD. Alors, moi, les premières BD Power Rangers que j'ai lues, c'était un vieux magazine. Au format, peut-être ça devait faire une dizaine de centimètres sur autant de large. C'était des tout petits trucs que tu achetais au bureau de tabac avec des photos de la série télé, des petites histoires de Power Rangers, pas très bien dessinées ou qui reprenaient un petit peu l'histoire de la série télé, qui, on va pas se mentir, n'avait pas non plus un très gros scénario en soi, quoi. Et donc ça a été mes premières lectures. Après, j'ai un peu abandonné, quoi, les Power Rangers, jusqu'à ce relaunch par Boom Studio. Je te propose, toi, de nous dire un petit peu comment tu as connu la franchise, et est-ce que tu l'as suivi depuis le début, est-ce que c'est récent?
Alors moi, mon histoire avec les Power Rangers, je saurais pas te dire à quel moment j'ai découvert ça. Il me semble que quand j'ai regardé ça, ça passait de mémoire TF1. Il me semble que ça passait dans TF1, enfin l'ancêtre de TFU qu'on connaît maintenant, quand il passait les dessins animés, tout ça.
Ouais, tout à
fait. Il y avait Arnold, il y avait des trucs comme ça, et puis il me semble qu'à un moment donné, il y avait un épisode des Power Rangers qui passait, je sais plus quoi. Et je me souviens en fait de regarder ça gamin, et déjà à l'époque je trouvais ça super kitsch, en fait, ces bonhommes qui se battaient avec des énormes robots qui sortaient d'on sait pas trop où, des trucs avec des explosions. Déjà tout petit, je voyais que les explosions elles faisaient vraiment c'était moche, quoi, c'était voilà. Et je regardais quand même parce que je sais pas, il y avait un truc, il y avait une ambiance particulière. Les personnages, je les trouvais cool, même si je savais que ça faisait un peu bidon. Mais en fait, je regardais sans forcément le dire aux autres. Tu vois. J'étais du genre, à l'école, je disais à personne que je regardais ça parce que j'avais peur que qu'on me prenne un peu en grippe parce que ouais, tu regardes ce truc, c'est pourri ou quoi que ce soit. Donc je me faisais mon petit plaisir dans mon coin, je regardais cette série. Et puis, puis voilà, après, j'essayais pas forcément de suivre les épisodes ou quoi que ce soit. J'allumais la télé, ça passait. Si ça passait au moment où j'étais devant la télé, je regardais. Si ça passait pas, je cherchais pas à suivre dans l'ordre ou à essayer de savoir pourquoi on avait changé d'équipe ou quoi que ce soit. Mais ouais, j'aimais bien. Puis les génériques, je m'en souviens plutôt bien. Je les trouvais cool. En VF, en plus, c'est rare les génériques qui sont cool. Donc à l'époque, ils étaient bien, je crois. Un peu rock et tout, c'était cool.
Ouais, très. Mais d'ailleurs, toute la partie générique et composition de musique est abordée dans le documentaire qu'on parlait tout à l'heure.
Ouais.
Et c'est assez marrant la manière dont ça a été produit, quoi. Je trouvais ça assez rigolo, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais ouais, du coup, c'est vraiment plus le petit plaisir coupable que tu regardais, toi, que vraiment une série à laquelle tu étais assidu, vraiment.
Ouais, c'est un peu ça. Puis c'est très similaire au Tortue Ninja que je regardais aussi par petits coups, comme ça, quand je tombais dessus. Je me rappelle très bien des dessins animés des années 90. Mais je suivais pas spécialement, je regardais quand ça passait. Souvent, je faisais autre chose devant la télé, voilà. Et puis, quand ça passait, je levais la tête, je regardais, et puis après, je passais à autre chose. Mais j'ai toujours quand même gardé un très, très bon souvenir de ces séries. Mais c'est pas forcément celle que j'attendais le plus. Moi, j'attendais plutôt des séries comme Arnold, Le Bus Magique, les trucs comme ça. C'était plus mon délire de l'époque, mais j'appréciais bien.
D'accord. Ouais, je pense que ouais, c'est cette génération qui a vraiment le... Et pas la culture Power Rangers, mais qui a des bases de Power Rangers, parce qu'ils étaient là un petit peu avec l'arrivée de ce genre de série en France, quoi.
C'est ça. Puis après, c'est pareil. Enfin, moi, je regardais les séries, mais c'était plus du MacGyver, l'Agence Touriste, comme ça, Magnum. J'adorais ce genre de série, en fait. Et du coup, les dessins animés, c'était un peu à l'écart. Je regardais un peu comme ça.
Et du coup, ouais, en fait, on peut faire facilement un lien avec le genre de série que tu viens de citer, là, et les Power Rangers, parce que, au final, ça reste des petites séries un peu épisodiques, avec la dose d'humour, un peu l'action, des personnages auxquels tu arrives à t'identifier ou que tu aimerais ressembler pour telle ou telle raison.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'était vraiment. J'avais pas fait le rapprochement, bah, justement, jusqu'à ce que tu en parles, mais c'est un petit peu le. C'est un peu le schéma, on va dire.
C'est l'ambiance typique des séries des années 90, hein, c'est pareil, tu prends les mêmes ingrédients et puis tu fais Stargate avec des aliens, tu fais de l'exploration spatiale, t'as des trucs épisodiques qui suivent plus ou moins, et puis t'as de l'humour, de la baston, de l'humour, de la baston. Et puis...
Ouais, et une de ses forces, en fait, justement, de ces épisodes, c'est que tu peux les prendre indépendamment. En fait, tu as... Ouais. Peut-être un fil rouge sur toute une saison, mais si tu ne regardes qu'un épisode, t'es pas perdu, en fait, parce que...
C'est ça.
Voilà, c'est des gens. Enfin, moi, je trouve que le format était bien pensé, quoi. Alors que maintenant, si tu prends un épisode 4 d'une série, si t'as pas vu les trois premiers, ben, tu piges rien. Et... C'est dommage un petit peu. Ben, du coup, ouais, on a cette licence qui est dans le dispo. Comme tu disais, c'était un petit peu le plaisir coupable de peur de. Enfin, pas de peur d'être jugé ou autre quand t'étais plus jeune, mais. Elle a quand même une image un petit peu péjorative, cette série des Power Rangers, au même titre que les Tortues Ninja aussi, donc, dont tu es pas mal fan, où on a pu retrouver les articles un petit peu, sur ton blog Indélébule. Moi aussi, je suis très fan des Tortues, et tout comme Power Rangers, c'est des séries qui ont une très mauvaise image auprès du public.
Ça vient des dessins animés ou des séries télé, quoi. Enfin, c'est du coup les gens ont dans leur tête l'image d'un programme pour les gamins et uniquement pour les gamins, ou alors d'un truc kitsch totalement dépassé parce que ça se passait dans les années 90. Maintenant, c'est autre chose. Alors qu'en fait, on est sur deux séries qui sont ultra matures avec des problématiques qu'un gamin de notre époque, enfin un gamin actuellement. Ne pourrait pas forcément comprendre parce qu'il y a un aspect psychologique qui est vachement développé.
Ouais, tout à fait. Et après, je trouve que ce qui est bien fait, donc là, je vais parler plus pour la partie comics que pour la partie série et tout ça que je vais laisser tomber. La partie comics, comme tu dis, un enfant qui va prendre le comics des Power Rangers va passer assez loin justement de ces problématiques, que ce soit psychologiques, relationnelles ou tout ce qui est mis en place, et va lire, lui, une histoire de Power Rangers, où vraiment il va retrouver ses personnages, les scènes d'action dynamiques, les complots, les choses comme ça. Mais si toi, en tant que lecteur plus âgé, tu le prends, tu vas avoir un second degré de lecture, entre guillemets. Et je trouve que c'est là où c'est dommage, tout comme les tortues, justement, que tu aies cet a priori, parce qu'en fait, la série s'adresse à plusieurs publics avec plusieurs degrés de lecture, et je trouve que ça fait une vraie force. Alors, je sais pas toi comment tu l'as, quand tu as appréhendé la série, quand tu l'as commencé, est-ce que toi, ça t'a dérangé cette forme de plusieurs couches de lecture, entre guillemets?
Non, moi, ce qui, alors, pour vraiment faire l'historique du truc, parce que ça fait très longtemps que j'envisage de lancer cette série, depuis même la sortie, plus ou moins la sortie du deuxième tome. Je crois le premier, je l'avais pas trop regardé. C'est surtout au deuxième tome. Et en fait, ça a vraiment commencé quand les tortues sont arrivées, en fait. Quand iComics a lancé les tortues chez nous, où là, j'ai regardé un peu de plus près. Je me suis, déjà à l'époque, j'avais une image d'une série de dessins animés pour les gamins. Je me disais, ouais, je vais peut-être pas lire ça, quoi. Enfin, je vais peut-être pas y trouver mon compte. Si c'est trop pour les gosses, je vais m'ennuyer sévère, quoi. Puis bon, après, on a un budget mensuel de bouquins à acheter. On n'a pas trop envie de prendre le risque sur le coup de prendre 15 balles de comics et puis devoir le revendre derrière parce qu'on n'a pas aimé. Donc du coup, bon, au tout début à l'annonce, je m'étais dit, ouais, à voir. Puis finalement, j'ai tenté, j'ai pris les deux premiers qui sont sortis, j'ai adoré. Et puis j'ai enchaîné. Puis finalement, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vachement mature et tout, c'est vachement bien. Puis après, je me suis dit, bah, faudrait peut-être que je me penche quand même sur les Power Rangers. Et par contre, différemment des Tortues Ninja, les Power Rangers, j'avais un avis qui était beaucoup plus, entre guillemets, négatif, dans le sens où, en plus de trouver ça, de trouver que c'était pour les gamins, j'avais en plus l'image du truc hyper kitsch avec les tenues ultra colorées, ultra flashy, avec les robots, pareil, les combats de robots, alors que c'est quelque chose assez marrant, j'ai adoré les films Transformers, donc c'est un peu contradictoire, mais j'avais cet a priori là, donc c'était un peu plus ancré en moi, c'était un peu plus difficile pour moi d'y aller. Et puis plusieurs fois je me suis dit, mais non, mais faut vraiment que je me lance, quoi, faut vraiment que j'essaye. Et j'ai pas osé plusieurs fois, alors que je savais très bien que ça allait faire comme pour les tortues. Et puis finalement, c'est à force d'en discuter avec différentes personnes sur Twitter et tout, qu'on me l'a vraiment vendu. Laissé sa chance aux Tortues Ninja, faut que je laisse sa chance aux Power Rangers, quoi.
Oui, surtout que là, en plus, Glenna a quand même mis tous les tomes à 10€, si je dis pas de bêtises.
Les trois premiers, et puis le Pink, le
One-Shot. Oui, voilà. C'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai dit, faut que je le dise, parce que je parle des quatre tomes qui sont sortis de la série régulière, mais il y a le one-shot aussi, Pink Rangers, qui est dispo aussi chez Glénat. Ouais, du coup, j'avais compris que c'était les quatre premiers tomes qui étaient à 10€. Et du coup, ouais, c'est les trois premiers plus le Power Rangers.
C'est ça, et le quatrième tome de la série régulière est à 15,95€, un truc comme ça.
D'accord.
Chose qui est assez marrante parce qu'en plus le quatrième tome est beaucoup moins épais, on va dire, quand même, que les premiers qui sont à 10€. Donc bon.
Ouais, alors sur le premier tome, bah, d'ailleurs, bah, on va commencer, enfin on va enchaîner et on va pouvoir parler un petit peu de la série. Donc 5 tomes dispo en VF chez Glénat, les 3 à 10, 1 à 14, on va dire 15€, plus le Pink à 10. Le premier tome, lui, commence et il est un peu plus épais parce qu'en fait, il y a le numéro 0 qui est sorti, enfin qui est intégré au premier tome. C'est un numéro 0 qui avait été distribué, je crois, enfin distribué ou vendu, un des deux, sur une Comic-Con un petit peu, enfin quelques mois avant le début de la série régulière, un peu en mode preview, quoi, pour un petit peu faire monter la hype de la nouvelle série, voilà. Et j'ai été assez surpris justement de le retrouver dans ce tome. Et pour ça, je tiens vraiment à dire merci à Glénat de le mettre. Parce que moi, j'ai galéré pour le choper en VO. Je suis abonné, donc je l'ai fait en single. Et pour mettre la main dessus, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup galéré. Et du coup, j'ai trouvé très cool qu'ils le mettent sur ce premier tome. Du coup, le premier tome, en fait, on arrive sur... une base. Alors, si on connaît les Rangers, c'est assez facile parce qu'on reconnaît la première équipe de base avec Jason, Trini, Zach, Billy, Kimberly et Tommy, le Rangers vert. Par contre, il faut avoir un petit peu de recul, je trouve, pour savoir que, ben, en fait, le Rangers vert, il est méchant à la base. Et si ça, tu le sais pas, tu arrives au moment juste après où il a déjà affronté Rita, enfin, tu comprends qu'il a affronté Rita, et qu'il a basculé du côté gentil, et que c'est vraiment un Power Rangers maintenant. Mm. Du coup, sur ce premier tome, toi, à ta lecture, du coup, malgré que tu aies ce passif un petit peu de petit plaisir coupable d'ado, est-ce que toi, ça t'a posé un problème d'arriver sur ce statu quo ou pas du tout ?
Bah, un petit peu, en fait, ce que je disais dans ma review sur le blog, c'est que on arrive de but en blanc là-dedans. Moi, après, je vois qui sont les Power Rangers. Après, je me souviens pas des noms des personnages. J'ai quelques souvenirs de la série, j'en ai pas revu depuis des années. Donc j'avais quelques bases, donc j'y suis arrivé à recoller un petit peu les trucs. Mais je me suis dit, voyons, un lecteur qui commence, qui a jamais vu ne serait-ce qu'un épisode des Power Rangers, qui sait pas ce qui se passe ni rien, il arrive là-dedans, il est direct de but en blanc, il s'est déjà passé un truc de fou, ils se sont déjà bastonnés, il y a déjà un gros changement dans l'univers des Power Rangers. Nous, on arrive là-dedans, on sait pas ce qui s'est passé, on n'a rien vu. Je trouve ça un peu brutal. Après, ça m'a. J'ai un peu calmé mon avis au moment donné, on revient un peu dessus. On nous explique vaguement avec quelques cases, justement, ce qui s'est passé avec quelques images. C'est pas non plus ultra détaillé, mais voilà, on se dit, ouais, bon, bah, on a vu à peu près ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout le passif pour comprendre ce qui va se passer dans le tome? Effectivement, il n'y a pas besoin. Parce que tout ce qui va se passer dans la série, en fait, découle de ce moment précis où le Ranger vert arrive dans l'équipe et avec tout le passif qu'il a avec leur ennemi et compagnie. Donc, en fait, ce qui s'est passé avant, finalement, ça n'a pas une énorme importance.
Ouais, je suis assez d'accord. Et d'autant plus que j'ai trouvé le parti pris, en fait, assez intéressant de dire. Bon ben voilà, on arrive à un instant T, il s'est passé des choses avant, qui, je trouve, sont amenées dans un tome un peu plus tard, dans le tome 3, si je dis pas de bêtises.
On est un peu dans le 2, non aussi, je...
Ouais, ou peut-être c'est dans le 2.
C'est en deux fois, je crois. Ils nous en disent un peu dans le 2, puis après, ça vient plus dans le 3, ouais.
Voilà, en fait, moi, c'est le moment où on voit, du coup, le méchant qui s'allie avec Rita. Et qui nous explique qu'est-ce qui se serait passé si le Rangers vert avait été, était resté méchant, pardon. Mm. Et en fait, j'ai pris cette espèce de monde alternatif pour quand tu le lis, en fait, tu te dis voilà, vu que dans ce monde alternatif, Tommy il est resté méchant. Là, on a le côté miroir, entre guillemets. Mais ça se fait sur plusieurs tomes, cette mise en place, et j'ai trouvé le parti pris intéressant, parce que ça laissait un peu la liberté quoi, à l'auteur de faire ce qu'il voulait, de combler les trous comme ça l'arrangeait, en fonction de l'évolution de la série.
Ça, c'est bien, puis on va dire que ça nous évite aussi le coup de l'origin story
tout à fait,
de base, ouais. Qui met souvent, enfin, je dis pas tout le temps, parce que sur les Tortues Ninja, par exemple, l'origin story, elle est très bien faite. Mais il y a certaines séries où les origin story, c'est un peu... Des fois, on se tape le premier tome, quand on s'est tapé toute l'origin story, on s'est un peu ennuyé, et puis on a hâte que ça passe à l'action. Là, au moins, ça passe direct à l'action, on est dedans direct, il n'y a pas de temps mort.
Ouais, je suis assez d'accord. J'aime bien aussi, alors je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais en fait, les petites backstories que Glenna met sur Bulk et Skull, alors ça apporte rien à l'histoire ou quoi. Mais j'ai trouvé sympa qu'ils le mettent, ça me fait toujours assez marrer tu vois, de voir les deux persos un peu boulés qui font partie de l'univers complet hein, des Power Rangers. Moi, c'est quelque chose, enfin, c'est deux personnages pour lesquels j'ai un affect assez particulier depuis la série justement, et j'étais content de les retrouver là sur ces petits one-shots.
Alors que moi, pour le coup, je les avais complètement oubliés. Je me rappelais absolument plus qu'ils étaient dans la série. Et au final, je trouve que moi, ça m'a saoulé, en fait. Pour rien me cacher, j'ai lu le premier qui est dispo dans le tome 1, et pour tous les tomes qu'on suivit, je suis passé outre, je les ai pas lus parce que je trouve que ça ralentit le truc. En fait, limite, j'aurais préféré que Glénat mette un épisode de plus à la place et qu'à la rigueur, il propose un petit one shot à pas cher à côté avec que ce qui se passe là-dedans. Vraiment pour les fans purs et durs qui veulent lire ça. Et je trouve dommage qu'ils viennent prendre la place d'un. Surtout que la série est vachement bien, est super bonne et tout. Il y a de l'action, t'as envie de savoir ce qui se passe derrière. Alors effectivement, s'ils ne l'avaient pas fait, s'ils avaient rajouté un chapitre, ça aurait peut-être été plus compliqué pour mettre les cliffhangers comme il faut à la fin de chaque tome. Mais je trouve ça dommage de mettre ça à la place d'un bon épisode. Voilà, j'aurais préféré qu'ils le mettent à part. Limite qu'ils le donnent en... Bah, je sais pas, à l'époque, je crois pas que ça se faisait trop, le Free Comic Book Day, il me semble que c'est arrivé après. Mais limite qu'ils le distribuent dans un truc gratuit, le Free Comic Book Day. En plus, ça aurait fait de la pub un peu pour les Power Rangers. Ils mettent tous les épisodes comme ça un peu à part, et puis ils mettent un ou deux épisodes de la série en mode sérieux. Et puis comme ça, ça faisait de la pub, mais voilà.
Ouais. Mais sur le FCBD, ils avaient sorti, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le premier chapitre de Pink Rangers.
Peut-être bien. Oui, exact.
Pour la première sortie, mais je ne sais pas si ça... En plus, comme Elsa Chartier avait fait la cover, et que cette année-là, il me semble que... Enfin, je dis peut-être des bêtises, ça remonte à quelques années, mais il me semble qu'elle était en dédicace sur un comic shop. Ça faisait un petit peu la pub. Ça a mis un peu en avant les Power Rangers. Mais pas assez, je pense, là-dessus, quoi.
Ouais.
Mais du coup, on va un petit peu continuer sur l'univers, sur le tome 2. On va enchaîner où, sur le premier, on a quand même la mise en place des Rangers, de leurs ennemis et de l'intrigue qui va se passer, l'espèce de fil rouge. Et dans le tome 2, on attaque vraiment le cœur de l'histoire, quoi. Avec Rita qui veut récupérer les pouvoirs du Ranger Sphere et qui va faire le nécessaire pour justement y arriver en faisant le nécessaire autant avec les alliés de Rita que un mystérieux ennemi qui va s'allier à elle dont nous on n'a pas trop d'infos, on sait qu'il est là en arrière-plan mais voilà, on ne sait pas trop. Moi, sur ce tome 2, c'est pour moi le tome le plus faible en fait, de la série. Enfin, des quatre tomes de Glénat. Parce que je l'ai trouvé mou.
Ah bon?
Ouais. Alors, pas mou en termes d'action, mais la mise en place, comment ça démarre. Je trouve que c'est un peu poussif. C'est vraiment le tome est très bon, hein, y a pas de truc. Mais des quatre, hein, voilà, c'est celui qui, pour moi, traîne un petit peu quand le Rangers vert est méchant, mais pas trop. Peut-être qu'il contrôle pas tous ses pouvoirs. Voilà, c'était vraiment celui qui pêche un peu le... Enfin, ça m'a un peu sorti, entre guillemets, de la série à ce moment-là.
D'accord.
Mais je te cache pas que le lire en relié, ça m'a fait plus l'apprécier que le lire au format chapitre par chapitre.
Ouais, ça va. De toute façon, après, c'est pour ça que moi, que ce soit en VF ou en VO, je ne lis pas de format kiosque parce que je trouve que ça casse vachement le rythme. Et ça, je l'avais vu sur Civil War 2 qui avait été très critiqué à l'époque parce que mou. Et justement, moi, je l'avais lu à l'époque en kiosque, je l'avais trouvé très chiant. Je l'ai lu après en relié, j'ai adoré. Depuis, pas comme ça. Et moi, du coup, le tome 2, en fait, contrairement à... Enfin, je trouve pas qu'il soit mou, en fait. J'avais adoré le tome 1. En mode, voilà, je l'ai fermé. Je me suis dit, ouais, vraiment, ouais, c'est sympa. C'est vraiment cool. Je passe derrière, je vais prendre la suite. Mais c'est cool. Et en fait, quand j'ai lu le tome 2, et d'emblée, en fait, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, c'est pas cool, c'est top, quoi. Et j'ai lu le truc, et c'est vraiment le tome 2 qui m'a poussé à continuer derrière, à me dire, ouais, non, en fait, la série, elle est vraiment bien, quoi. Pas juste cool, elle est vraiment bien, quoi.
Ouais, ben, moi, justement, voilà, c'est cette partie-là contrairement au tome 3, où là, il se passe énormément de choses. Ce qui m'a fait pousser, en fait, ce qui m'a fait passer, entre guillemets, du tome 2 au tome 3, c'est le moment où, sans trop spoiler pour les gens qui n'ont pas lu, c'est le moment où il y a l'événement avec les Rangers qui se retrouvent dans une position assez délicate, juste à la fin du chapitre 2, où, suite à la bataille avec Rita, qui veut récupérer les pouvoirs via le cristal, se retrouve en possession de pouvoirs imprévus, quoi, qui n'étaient pas prévus par Rita, on va dire. Et donc là, je me suis dit, ouais, là, je vais continuer parce que cette intrigue m'intéresse. Donc, passé voilà, la fin du 2, comme voilà, il y a eu cet événement, ça m'a un petit peu moins intéressé sur les deux derniers chapitres. Par contre, quand on attaque le chapitre 3, là, ouais, là, vraiment, déjà, sur la dernière page du chapitre 2, il y a un nouvel événement. Donc, je pense que tu dois voir lequel c'est, de toute façon, c'est ce qui se passe sur la cover du tome 3.
Ouais. Oui, exactement.
Et
ça,
donc,
c'est de ouf.
Voilà, justement, quand on arrive là, ce tome est à l'image de sa cover, en fait, complètement fou pour moi. Ouais. C'est vraiment un petit peu le point culminant du premier arc, en fait. C'est là où tu te dis, ouais, en fait, Kyle Higgins, qui est au scénario, parce qu'on n'en a pas parlé, ouais. Il se fait plaisir. Vraiment, il a une connaissance de l'univers. Moi, je pense qu'il devait être assez fan de la série et de l'univers, parce qu'il y a beaucoup de références, et il construit quelque chose de solide.
Ouais, bah clairement. Mais de toute façon, je pense que pour écrire sur une série de ce genre-là, faut être un minimum connaisseur et aimer, parce que c'est pas une série lambda. Voilà, il y a un gros univers, il y a beaucoup de choses qui se passent, et il faut pouvoir accrocher les fans. Donc, mais ce que je trouve bien avec cette série, c'est que je trouve qu'en qualité, elle monte vraiment crescendo, en fait. À chaque tome, je trouve qu'on monte encore d'un cran. Alors après, je sais pas ce qui se passe après le tome 4. On m'a vaguement dit ce qui allait se passer, mais vraiment dans les grandes lignes. Du coup, je me dis, ouais, non, faut vraiment que ça sorte. Mais j'ai vraiment l'impression que la série, elle monte en puissance petit à petit.
Complètement. Là, sans trop aller plus loin, parce que ça serait dommage un petit peu de spoiler les tomes 3 et 4, où vraiment les révélations et les enjeux sont quand même vachement importants. Et en français, vu qu'on n'a que 4 tomes, ça serait dommage d'en griller 2 pour tout le monde en spoilant. Mais la suite monte autant en tension que, comme tu disais tout à l'heure, même en tension psychologique, en fait. Pas que sur les actions des personnages ou autres. Il y a vraiment un travail sur les personnages, sur les relations entre eux. Et je trouve que voilà, on est plus que sur des simples ados qui se transforment et qui vont taper des méchants, quoi.
Ah ouais, bah, ils sont clairement poussés dans leur retranchement. Hein. On les pousse à bout. Vraiment, on les manipule à mort et tout. Ils sont vraiment chahutés au niveau psychologie. Ils sont vraiment ultra chahutés, quoi. C'est ça qui est intéressant.
Ouais, mais voilà. Ouais. Et puis du coup, on se retrouve avec donc sur ces deux derniers tomes, passe au grand méchant avec qui Rita s'était alliée précédemment. On a la révélation qui ne va pas laisser les Rangers indifférents, que ce soit les Rangers ou même Zordon. Et on arrive sur une conclusion qui, on arrive jusqu'au tome 4 en VF, qui nous permet d'avoir la conclusion de ce premier arc. Donc, il faut aussi le préciser. Si tu te lances sur les Power Rangers et que tu achètes les 4 tomes, tu peux avoir une histoire ouais, quasi complète.
Ça, tu te retrouves pas à te dire, ouais, en fait, j'ai pas la fin, à quoi ça sert que je continue ou que j'attende autant que je les revende. Non, là, t'as les 4 tomes, t'as une histoire complète. Bon, tu sais qu'il va se passer quelque chose derrière. Maintenant, il y a des séries ou des one-shots qui se terminent de façon extrêmement ouverte, où tu te dis, il y aura forcément une suite, et en fait, il n'y en a même pas de prévu, il n'y a rien du tout qui va suivre. Donc, au final, C'est comme si là, la série, c'était une série en 4 tomes, au pire, si on n'avait pas la suite.
Ouais, tout à fait. Et je reviendrai un peu sur la suite tout à l'heure, quand on va en parler. Pour ces 4 tomes, voilà, moi je recommande grandement, parce que au niveau du scénario, c'est solide, c'est Kyle Higgins qui est du début à la fin. Il mène son run. Graphiquement, alors il y a quelques chapitres qui sont un peu en deçà, je trouve, où la cohérence, enfin pas la cohérence graphique, mais le trait est vraiment en dessous de ce qui se fait sur d'autres chapitres, mais c'est ouais. De très bonne facture. Hein. Il y a des planches où si je... Alors je sais plus si c'est quel tome, où on a, je crois, Dan Mora dessus.
Il me semble qu'il y a du Dan Mora.
Enfin, j'ai plus le tome exact, je suis en train de le chercher, mais quand les ordres arrivent, les pages de morphing et tout, franchement, c'est super dynamique. On reconnaît bien les personnages, pour ceux qui sont assez fans de la série ou qui ont déjà vu des Rangers, on reconnaît bien les personnages des Rangers. Les méchants sont bien là, sans que ça soit non plus voilà, la série Power Rangers. Pas trop quali qu'on va mettre, mais on va pas non plus forcer pour faire quelque chose de fou comme certaines licences qui sont pas non plus vachement développées et où on sort le produit juste pour faire de l'argent. Là on a vraiment sorti le produit pour faire une bonne série, quoi.
Ah, c'est un peu la peur qu'on peut avoir à se lancer dans une série comme celle-là, hein, de toute façon. C'est la peur du truc fait juste pour surfer sur l'engouement d'une série ou d'un truc ou d'un film, et de se retrouver avec un truc qui a aucune valeur, quoi, où t'as rien en fait, c'est mou, ouais bah ok.
Ouais, c'est...
Tu sais, souvent les jeux, c'est-à-dire c'est très vrai sur les jeux vidéo, quand t'as genre un film genre Transformers qui est ultra populaire et tout, puis tu bombardes un jeu vidéo sur PS3 ou PS4, Transformers, souvent le truc est complètement naze, parce que c'est un tout petit studio qui s'en occupe, et puis ils ont fait ça juste pour surfer sur le truc. Faire un produit dérivé et puis basta, quoi.
Ouais, tout à fait. Là, on en est vraiment loin. C'est vraiment un univers à part de la série de télé qui se développe et qui est vraiment solide, quoi. On a aussi, on le disait tout à l'heure, le one-shot sur le Power Rangers Rose. Je sais pas si toi, tu l'as lu.
Alors, pas encore. Je pense que... Alors, j'en faisais pas ma priorité parce que j'ai appris que ça se passait un peu à part. C'était vraiment dans une timeline différente. Donc, j'en ai pas fait ma priorité, mais je pense que je le prendrai à l'occasion.
Ouais, tout à fait, voilà, le Rangers Rose, c'est juste un one shot où tu suis Kimberly qui a une petite aventure. Voilà. C'est du bonus entre guillemets, mais à 10€. Voilà. À 10€, ça le vaut. À 15, ouais. C'est dispensable, ouais. On va dire. Là, il vaut mieux en profiter, quoi.
C'est...
Tout en restant un petit peu comme sur le début du du podcast sur Power Rangers et les Tortues Ninja qui reviennent. Assez régulièrement. On a quand même en octobre chez iComics un one-shot crossover sur les Power Rangers et les Tortues Ninja.
Ouais.
Avec Simone DiMeo au dessin et au scénario, j'ai perdu le nom, et je crois que c'est Ryan Parrott de mémoire. Ça a fini en VO. Et ça arrive en France en octobre. Je sais pas, toi t'as pas lu du tout, t'attends vraiment la VF.
Ah oui, j'attends la VF. Après, il y aurait pas eu d'annonce. En fait, c'est bien goupillé, parce que au moment où Sullivan d'iComics a fait l'annonce, quoi, ils allaient publier le crossover, j'étais vraiment en train de me décider en me disant bon, je vais précommander la VO, parce que bah, je pensais pas que quelqu'un allait le publier. Déjà, Glenna, j'y croyais pas. Parce que je les vois pas trop faire proposer une série qui fasse de la pub pour une série d'un autre éditeur. Donc, en fait, ça s'est fait au pile poil au bon moment. Et dès que j'ai appris, j'ai dit, ouais, bah non, vas-y, les tomes en VF, ils sont super bien faits. J'attends.
Hein. Moi, je suis assez d'accord. Alors, je prends un VO parce que... il y avait une série de couvertures hein, trop bien, que je suis trop faible de la couverture. Où les Tortues Ninja, en fait, tenaient les casques, tu sais.
Ouais, elles sont sublimes. J'en ai plein en fond d'écran.
Voilà, donc moi, quand j'ai vu ça, c'est trop faible, ouais. J'ai tout précommandé. Voilà.
Je prends.
Je prendrai aussi un VF, parce que Franchement, tu lis ça, et en fait, c'est quand t'es gamin, tu prends tes figurines de Power Rangers, tu prends tes figurines de Tortue Ninja, tu fais un crossover avec toute l'imagination que t'as.
C'est ça. Et
c'est vraiment ce que t'as. Mais c'est pas juste du fan service. Il y a vraiment une construction. Graphiquement, par contre, c'est complètement fou. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Je crois que j'ai pas vu des tortues et des Power Rangers aussi beaux. Malgré tout l'amour que j'ai pour Santo Luco et tout, voilà, c'est propre à la série. Mais là, sur un crossover comme ça, les deux, le dynamisme et tout qu'il y a, c'est vraiment complètement fou. Il se passe un...
C'est vrai que ça arrache. Hein.
Ouais, vraiment. Et puis, c'est assez court, hein, c'est 5 numéros. Mais ça va à l'essentiel. On a ce qu'on attend. Et c'est du très, très, très haut niveau. Hein. Vraiment. Tu vois, j'avais lu. Alors ça, c'est pas sorti en VF, par contre, le Power Rangers Justice League,
ouais,
qui était sorti il y a quelques temps, ben, celui-là, tu vois, est totalement dispensable dans le sens où, au final, ouais, c'est vraiment bof, quoi. Mais, je sais pas, il manquait un petit truc pour te dire de... voilà, genre, c'est un crossover qui vaut le coup. Celui-là, le Power Rangers TMNT qui arrive, est vraiment, vraiment très bien. Alors, j'espère... Hein, peut-être que c'est un défaut aussi que je vois de plus en plus, qu'il y aura un petit peu d'édito sur le tome VF.
Bah écoute, j'ai vu une news, enfin j'ai vu une info passer comme quoi, a priori, dans le futur, il y aurait possiblement plus d'édito dans les tomes.
Que j'ai vu. Ça c'est une bonne nouvelle, je trouve. Parce que c'est vrai que c'est des fois, c'est pas évident. Quand tu débutes, quoi, et qu'il te manque un petit peu les bases, je trouve que c'est quand même important.
C'est ce que j'avais reproché au premier tome des Tortues Ninja, et même, j'attendais ça sur le tome 0, en fait, qu'ils ont republié par la suite. Je m'étais dit, bon, peut-être qu'ils n'ont pas fait ça pour le tome 1 et compagnie, parce qu'ils savaient qu'ils allaient publier un plus gros tome qui passait avant, donc du coup, qu'il y aurait quelque chose dans ce tome-là, et en fait, bah non, il n'y a pas plus dans le tome 0. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui manque, et moi, je parle énormément des Tortues Ninja, parce que j'adore cette série, c'est une série qui a besoin de lecteurs, tout comme les Power Rangers, je pense qu'on en reparlera, mais j'en parle régulièrement, et à chaque fois qu'on vient me parler des Tortues pour me demander comment on commence, qu'est-ce qu'on fait et tout, à chaque fois on vient me dire, ouais, mais bon, il n'y a pas d'édito, qui est qui, c'est dommage, ouais, après, malheureusement, je ne suis pas l'éditeur, on ne sait pas dans les coulisses, est-ce que... La direction a dit ouais, faut quand même mettre la série, mais on limite le nombre de pages, puis ça fait du boulot, donc c'est un peu limite. On verra ce qu'on fera plus tard, et voilà. Peut-être, après, on n'est pas dans les coulisses, donc c'est pas évident de.
C'est sûr, on peut pas trop spéculer, entre guillemets, on peut pas trop imaginer ce qui se dit.
C'est ça, parce que mine de rien, bon, je pense que Sullivan, il a quand même pris un risque fou, mais tout comme, je sais plus comment il s'appelle chez Glénat, mais.
Olivier Jalabert.
Voilà, Olivier Jalabert, les deux, ils ont pris un risque assez énorme, je pense, en proposant ces deux séries dans leur catalogue, à mon avis, parce que c'est quand même, justement, du fait des images, de l'image que peuvent avoir ces deux séries auprès du grand public, c'est quand même compliqué. Et derrière, peut-être que au moment de produire le truc et de le vendre à leur directeur, tout ça, peut-être que le fait de rajouter 3 pages d'édito, où il faut créer des pastilles, où il faut écrire du texte, donc du coup ça prend du temps, parce qu'il faut le mettre en page, il faut le faire valider, tout ça, machin. Ça prend du temps, donc le temps c'est de l'argent. Est-ce que le fait de faire 3 pages de plus en édito, ça aurait pas fait que du coup les tomes seraient pas sortis, parce que ça aurait coûté trop cher et qu'ils auraient pris trop de risques. Moi, à mon avis, je mise là-dessus.
Mais c'est aussi, après, là tu parles de Glénat qui a pris le risque, clairement c'est un risque. Après, je pense que là où peut-être ça a mal été calculé, c'est que Glénat, à leur arrivée, ils ont arrosé avec tout ce qu'ils pouvaient. Et peut-être qu'ils auraient dû cibler pour avoir un petit peu une locomotive à la Delcourt, un peu comme au Walking Dead. Bon, évidemment, on ne trouve pas une série à la Walking Dead tous les 4 matins qui peut te faire un fond de vente non-stop. Mais peut-être que réduire la voilure et centrer quelques titres, ça aurait été vraiment le petit truc qui aurait permis à la série de continuer, quoi.
Mais ça, de toute façon, d'ailleurs, je vais en parler dans un prochain article qui est déjà écrit, là, je vais pas tarder de lancer. justement, où je parle du cas de Glénat Comics et de leur stratégie, ce qu'ils ont pu faire par le passé. Et justement, dans leur stratégie, ils ont voulu la faire à la Urban Killer, en essayant de suivre un peu le rythme d'Urban au niveau indé et tout ça. Sauf que je pense pas qu'ils aient pris suffisamment le temps pour accompagner les sorties, clairement.
Ouais.
Et du coup,
la communication, c'est important en plus maintenant. Hein. On dirait pas.
Ouais, puis clairement, s'ils avaient pris le temps d'accompagner, je sais pas moi, on va dire que je bute là-dessus, mais moi, je trouve que c'est un énorme gâchis. La série The Beauty, franchement, si elle avait été accompagnée, elle aurait pu continuer. C'est une série, elle est génialissime. Là, je suis en train de la continuer en VO, du coup, à cause du fait qu'il l'a abandonnée. Cette série, elle est super. Et je pense que si les Power Rangers avaient été accompagnés, surtout si en plus il y avait eu la communication sur les tomes à 10€, parce que là j'en fais de la pub en ce moment, tout le monde me dit « Ah ben les tomes ils sont à 10€ !» Bah oui, ils sont à 10€. Il n'y a pas eu de pub faite dessus. Si quelqu'un avait dit à un moment donné « Les gars, avec une pastille, le tome il est à 10€ sans limite de temps », je pense que déjà ça aurait attiré plus de monde.
Ouais, carrément.
Ils ne seraient pas dans la position où ils sont actuellement avec... une quinzaine de séries qui ont été commencées au tome 1 et qui ne seront jamais continuées parce que ça a été catapulté comme ça à l'arrache. Surtout qu'il y a plein de sorties en comics et que du coup, c'est noyé dans la masse. Quoi.
Donc, complètement. En plus, là, on parle un petit peu de stratégie de Glénat, etc. Ils avaient annoncé aussi, avant la sortie du tome 4 et pour la Comic-Con de 2018, si je ne dis pas de bêtises, la seconde série... qui était en parallèle de Mighty Morphin Power Rangers, le titre Go-Go Power Rangers. Alors, Go-Go Power Rangers, c'est une série là qui a fini en VO en 32 chapitres. Ouais. Et là où je peux comprendre que Glénat l'ait pas sorti faute de vente, c'est parce que dans l'arc qui suit la conclusion du quatrième tome VF, c'est l'arc Shattered Grid qu'ils appellent. Tu noteras mon magnifique accent anglais au passage. en fait, à partir de cet arc-là, il y a un espèce de ping-pong entre la série Go-Go Power Rangers et la série Mighty Morphin Power Rangers, où tu as des événements et des personnages qui apparaissent et qui font leur introduction dans la série Go-Go Power Rangers, et qui ont après une intervention, ou pas un arc, mais peut-être un mini-arc en 2-3 chapitres, dans la série Power Rangers. Alors du coup, difficile de lancer cette série, je pense, en sachant que la régulière ne se vend pas. Ça doit pas être simple.
Si t'en sors qu'une, limite, c'est compliqué, parce que du coup, il te manque la moitié.
Ouais, ou alors il te faut intégrer les numéros de la série Go-Go Power Rangers dans la série Power Rangers régulière, ouais. Et tu te retrouves avec un tome où tu vas avoir, par exemple, un tome Power Rangers, deux tomes Go-Go Power Rangers, un autre tome Power Rangers, mais ça te permet d'avoir l'événement, entre guillemets, complet. Et ils ont refait ça dans l'arc, deux arcs après, avec l'arc Necessary Evil, qui, lui aussi, se fait un peu... se fait principalement dans Mighty Morphin Power Rangers, mais dans Go-Go Power Rangers, tu as un petit peu... Ça sert un peu de flashback, tu vois, à qu'est-ce qui s'est passé entre les Rangers, entre ces deux numéros de Power Rangers, quoi. Ouais. Et c'est dommage, parce que cette série est vraiment très cool. Tant que je suis sur la VO, je vais en parler. On a justement le Ranger Slayer qui apparaît. La suite, sans trop spoiler, la suite de la VF en VO, c'est une explosion de la grille des Rangers, quoi, qui ouvre à des univers et à des mondes parallèles avec différents Rangers. Ils utilisent en fait la mythologie de la série télé de tous les Rangers qu'on a pu voir. Et on se retrouve donc avec un Ranger Slayer dont le one-shot vient de sortir ici, ce mois-ci, là, ouais. Où en fait il s'agit de Kimberley, d'une autre réalité, qui en fait est le dernier Rangers dans un monde qui a été dévasté par un super ennemi, l'ennemi qu'on voit dans le tome 3 et 4 de la série VF, pour pas trop spoiler, j'essaie de garder un peu le, un peu le mystère. Et cette nouvelle série, ce nouveau Ranger, va donner lieu à une nouvelle série qui sortira en août, donc sur le Ranger, sur le nouveau statu quo de Kim en Ranger Slayer. Et la série Power Rangers, elle, finit en VO au chapitre 55 en octobre. Et en novembre, il y aura un titre Mighty Morphing numéro 1 qui fera un relaunch avec l'équipe, la nouvelle équipe du statu quo, plus un autre titre mystère dont on n'a ni nom ni équipe créative dessus, ni rien, mais qui fera son apparition en même temps. La seule chose qu'on sait, c'est qu'au chapitre 55, un nouveau Power Rangers vert sera introduit. C'est la seule info qu'on nous a donnée. Donc il y a encore quand même de... En sachant que les séries sont finies,
ouais.
Glenna pourrait communiquer aussi là-dessus, tu vois, en disant, ben voilà, Go Go Power Rangers, ça finit en 32, ça fait tant de tomes, Power Rangers finit en 55, ça fait tant de tomes, et le lecteur sait sur combien de temps il s'engage. Ça ouais. peut être aussi une démarche de communication.
Après, tu vois, dans leur dernière communication, Glenna annonçait qu'ils étaient en train de réfléchir avec l'éditeur à la façon... de continuer la série en VF et moi j'ai un avis là-dessus. Je pense que il devrait sortir la série en format intégral à la façon un peu de Delcourt. On met l'équivalent de tomes et demi de la série en fait.
Et... Ouais, ça existe déjà en VO, alors peut-être qu'ils vont se rapprocher effectivement de ce format-là.
Ça pourrait être bien déjà, ne serait-ce que pour rattraper le retard un peu plus vite.
Ouais.
Et accessoirement, justement, ça pourrait peut-être aussi leur permettre de publier la fameuse série Go Go Power Rangers qui se passe en parallèle. C'est-à-dire que du coup, bah, t'alternes dans une intégrale, ce qui fait que t'es pas obligé de sortir une série à part, tu fais moins d'impression de tomes, et du coup, bah, tu t'en sors.
Enfin, moi, ouais, c'est sûr. Ouais.
Je pense que niveau stratégie, pour que ça marche, et on voit que les intégrales, ça marche. Les dernières grosses intégrales qui sont sorties chez Glénat, de ce que j'ai compris, apparemment, elles se sont bien, voire très bien vendues. Quand on voit l'engouement qu'il y a pour l'intégrale d'Invincible, alors même que la série vient de se finir juste avant, avec un 25e tome, quand on voit l'engouement que les intégrales, elles ont, bah, franchement...
Et elle fait aussi les intégrales et l'engouement qu'il y a, ça marche bien parce que tu vois typiquement Invincible, les premiers tomes sont assez compliqués à trouver maintenant.
Oui.
Et du coup, il n'y a pas de réimpression. Donc les gens ont un engouement parce que ben, en 25 tomes, tu as le temps d'avoir des retours sur la série en te disant ouais, la série est vraiment bien et tout. Et c'est le cas, elle est vraiment très bien. Ouais. Et du coup, quand tu veux te lancer et que tu as la frustration de ne pas trouver les premiers tomes, ben, tu abandonnes et du coup, tu n'achètes pas. Et l'intégrale aussi. C'est le bon moyen pour ceux qui ont raté les premiers tomes de mettre la main dessus. Quoi. Là, le problème, ouais. C'est que les Rangers ne sont pas out of stock encore.
Enfin... Après, je ne pense pas que ça joue tant que ça, dans le sens où quand tu regardes l'intégrale contre Natura qui est sortie, elle s'est bien vendue. L'intégrale oui. Crimson qui est sortie, c'était pas sorti en VF, ou en tout cas pas...
sorti chez. Un single, un kiosque chez Cliffhanger. Moi, je les ai en ouais, petit format ça. Souple, ouais.
Donc, c'est sorti il y a extrêmement longtemps, mais enfin, les anciens lecteurs qui connaissent, actuellement, je ne sais pas qu'il y en a beaucoup qui connaissent, ça s'est bien vendu. Joyride qu'ils ont sorti, ça s'est bien vendu aussi, il me semble. Donc,
non, je suis d'accord. Et puis, nous, on a quand même une culture ici où on veut des beaux livres, ouais, avec des beaux hardcovers, des belles choses. Si tu as l'occasion de jeter un œil sur les intégrales de Power Rangers, ils appellent ça Mighty Morphing Power Rangers, Year One, je crois, ouais. Year Two, etc. Mais les covers sont trop belles, ça fait un petit peu grimoire avec le médaillon du Rangers en couverture. Enfin, ouais, vraiment.
C'est en souple, c'est en hardcover.
Non, c'est du hardcover.
J'ai du mal en général avec la VO à cause de l'aspect softcover qui est assez peu qualitatif, je trouve.
Ouais, complètement. Mais ouais, je pense que ça peut être une solution aussi de proposer même, cette intégrale. Ouais.
Un autre exemple, quand je vois le nombre de personnes sur les réseaux, après, tout le monde n'est pas sur les réseaux, mais de ce que je vois, ce qui est parti de l'intégrale Fear Agent chez Achilleos, L'intégrale était à 75 balles quand même. Ok, c'était en fin d'année, c'était vers Noël, tout ça, donc les gens se sont fait des cadeaux. Mais elle a quand même bien marché, quoi. Donc même le prix, puis quand on voit les Icons chez Panini qui se vendaient très très bien, qui faisaient le format d'une intégrale, hein, typiquement, même les gens, je pense qu'ils sont prêts à mettre une trentaine d'euros dans une belle édition avec beaucoup de contenu dedans. Ils sont prêts à le faire plutôt que prendre 10 tomes à 15 balles, 10 balles. Je pense qu'ils sont prêts à mettre un peu plus pour avoir une belle édition qui regroupe pas mal de tomes, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. Après, je reviens vite fait sur l'intégrale de Fear Agent. Moi, je l'ai acheté. Mes tomes Fear Agent avaient pris l'eau. Je me suis jeté dessus en me disant ça va vite partir et tout. Ça s'est bien vendu. Par contre, je suis super déçu pour la taille du papier. C'est super fin, quoi. Ouais, je sais pas si toi tu l'as vu.
Ouais, moi je l'ai. Moi, je l'ai acheté dès qu'il est sorti. Je l'ai acheté. C'était un de mes cadeaux de Noël. Mais ouais, ok, le papier il est un peu fin. Mais après, si tu regardes déjà l'épaisseur du truc, je pense que
oui, c'est pour ça aussi. Ouais,
ça aurait été un moellon le truc. Hein. Déjà,
c'est que, ça.
Déjà que là, le truc il est super lourd. Hein. Moi, pour le lire, on appuie sur un coussin, sur un truc parce que. Avec les angles du bouquin, ça me faisait mal à la main tellement il était lourd. Donc si on avait eu du papier plus épais, bah, ça aurait été impossible à lire.
J'avoue. Mais voilà. Après, ouais, le format intégral est un bon moyen. J'avais pas pensé pour les Power Rangers. Mais ben, c'est vrai, comme tu dis, en y glissant les numéros de GoGo Power Rangers. Alors, je sais pas s'il faut qu'ils glissent tout ou s'il faut qu'ils glissent juste les numéros tie-in, entre guillemets.
Ouais, c'est ça. Et puis je pense que ça fait partie de leur recherche actuelle, parce que j'avais discuté avec la personne qui s'occupe des réseaux sociaux chez Glénat, et j'avais demandé pour The Beauty justement, entre autres, et à l'époque on m'avait dit bah on est en train de regarder, on étudie la possibilité de sortir toute la série d'un coup plus ou moins en intégrale plutôt que de continuer en tout petit tome.
Et ils avaient essayé pareil pour Wayward. Parce que moi, je suis un énorme amoureux de cette série et je suis extrêmement déçu que ben, ça soit fini, quoi. Et ils avaient essayé aussi d'en faire une sorte d'intégrale. Parce qu'en plus, la VO, c'est trois intégrales. C'est tout. Ouais. Donc, c'est pas non plus... Enfin, je trouvais que c'était pas la fin du monde et j'aurais aimé le voir sortir en VF. À voir
qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas... Glénat, j'espère qu'ils feront la démarche d'aller jusqu'au bout. Mmh. Mais je trouve qu'encore actuellement, ils savent que la série se vend pas énormément, mais ils communiquent pas, ils cherchent pas à la pousser. C'est-à-dire que tu prends à côté de ça Sullivan qui est chez iComics, tu vois qu'il se bat pratiquement tous les jours pour faire de la pub à la série, pour dire voilà les gars ce qui se passe. Si jamais on n'a pas plus de lecteurs, ça va continuer, mais ce sera un peu plus compliqué. Il n'y aura pas de réimpression, il n'y aura pas de choses comme ça. Donc à terme, ce sera compliqué. Voilà, il en parle et tout. Enfin, ils poussent le truc, ils font des vidéos tous les mois où ils présentent les sorties, où ils rappellent les Tortues Ninja, tout ça. Ils suivent vraiment leurs sorties. Glénat, ils savent qu'il leur manque des lecteurs, mais ils ne poussent pas pour autant leur série. C'est dommage.
Et peut-être que iComics a une plus petite structure et moins de titres, et ils peuvent se le permettre, entre guillemets, en question de temps. Ou peut-être qu'ils prennent le temps aussi de le faire, là où Glénat est une grosse machine et a peut-être moins de temps. C'est médisant ce que je vais dire, tu vois, mais est-ce que pour Glénat, il vaut mieux pas sortir un titre que tu vends à la pelle sans rien faire? Je te prends un exemple, alors c'est pas chez Glénat, je pense pas, mais un Astérix sort, le Astérix, t'as pas besoin de faire de la pub, le truc il se vend, voilà. Alors est-ce que Glénat mise peut-être pas, c'est pas un reproche, hein, je comprends tout à fait, mais est-ce que c'est pas plus facile de vendre un titre, enfin de sortir un titre qui se vend sans que t'aies rien à faire, plutôt que d'essayer de défendre une série pour laquelle il te manque des lecteurs et que tu sais que quoi que tu fasses, si tu fais pas à fond, suivant et tout. Je sais
après,
pas.
De toute façon, j'ai l'impression que ça fait partie de leur façon de faire, dans le sens où j'ai pas l'impression que les sorties BD franco-belges de Glénat soient extrêmement accompagnées, en manga non plus. J'ai pas l'impression que ce soit un peu la façon de bosser chez eux. Après, ils ont leur série qui marche bien. avec Lady Mechanica qui cartonne. Après, on va pas se mentir, hein, ça reste bien en dessous de The Walking Dead et puis Rick et Morty chez iComics. Mais ça marche vachement bien, quoi. C'est la troisième série qui se vend le mieux. Donc je pense qu'ils sont contents d'avoir cette série qui marche bien. Mais à côté de ça, je pense pas qu'il y ait une seule autre série chez Glénat qui se vende toute seule comme ça, sans pub. Même, on a de la chance, ils ont continué The Weeknd and The Divine.
Ouais. Donc,
mon accent est aussi pourri. Mais ils ont continué cette série alors qu'elle est hyper complexe, qu'il faut vraiment être ultra, ultra concentré pour la lire. Et en plus, ils la sortaient un tome par an, ce qui est impossible. T'es obligé de relire le tome précédent avant le suivant, sinon tu pannes rien. Ils ont continué jusqu'au tome 8 et le dernier, qui sera le 9, sort en fin d'année, là. On a eu de la chance, ils ont continué ça, mais franchement, j'y crois. Enfin, je pense qu'il y a des séries beaucoup plus faciles à suivre qu'ils ont arrêté. Et celle-là, il l'a continué. Alors moi, je suis content parce que j'adore cette série, je la continue aussi. Mais enfin, je sais pas, il y a des trucs, c'est bizarre quand même.
Ouais, bah, espérons du moins que bah, pour les Power Rangers, le bouche à oreille, les chroniques qui s'en présentent, bah, autant sur ton blog. Nous, on avait chroniqué aussi au fil de l'eau quand c'était sorti à l'époque.
Ouais.
Ce petit podcast, et puis un petit peu l'engouement qu'il y a sur les réseaux. Les tomes à 10 euros feront en sorte que la suite arrive. Je sais pas si tu veux encore échanger un petit peu autour des Power Rangers, si tu as quelque chose à rajouter.
Pas forcément, il y avait juste un truc aussi qui a participé un peu au fait que je me lance dedans. J'ai oublié de le citer au début. C'est en fait l'acteur Jason David Frank,
ouais,
qui joue dans une des séries et qui joue en fait Bloodshot dans la série Ninjak vs The Valiant Universe.
Et okay,
qui joue un Bloodshot extrêmement convaincant, bien plus que Vin Diesel dans le film. Donc, sachant que c'est une série entre guillemets amateur, c'est une belle boîte de prod qui a fait ça, mais ça reste de l'amateur. Et il a fait un super Bloodshot. Et du coup, quand j'ai su qu'il avait joué dans les Power Rangers, ça m'a relancé un peu dessus. Je me dis, tiens, ouais, il va falloir quand même que je m'y mette pour aller voir ce que ça donne.
D'ailleurs, tu parles de lui. Si tu veux jeter un œil, il avait fait aussi une espèce de petite vidéo trailer. Là, comme c'est, on va dire, c'est la fin de l'émission, on va être en full spoiler, en étant Lord Dracon et pour justement la série Tortue, enfin la série Tortue, j'ai rien à voir, la série Power Rangers, il a fait un petit teaser à Lord Dracon où il remet le costume et il s'assoit sur cette espèce de trône qu'il y a là. Si t'as l'occasion de jeter un œil, c'est assez rapide et c'est super convaincant, quoi.
Regarde.
Bah, du coup, je te propose qu'on conclue notre podcast sur les Power Rangers là-dessus.
Ouais.
Je te laisse un petit peu la parole si tu veux parler un petit peu de ton actu, de ce qui va arriver sur ton blog. On peut déjà y retrouver les chroniques des Power Rangers, des Tortues Ninja. Mais le reste, on t'écoute.
Alors bah, là, je viens tout juste de sortir ma review des Power Rangers, donc... plutôt que de faire sur les 4 tomes, j'ai préféré faire un bon article sur le premier en faisant un petit bilan sur la série complète actuellement disponible, histoire de pas trop spoiler, parce que c'est hyper facile de spoiler, il se passe beaucoup de choses, c'est mais c'est super facile de spoiler, j'ai pas voulu prendre le risque. Je préfère donner envie aux gens avec un bon article qu'avec 5 où je spoil à mort, ou alors j'ai rien à dire parce que j'ai trop peur de spoiler. Donc voilà, j'ai publié ça, j'ai les reviews des Tortues Ninja qui viennent à chaque sortie, j'en parle à chaque fois, j'ai un guide de lecture si jamais ça peut vous intéresser sur un des bulles pour savoir par quoi commencer. Sinon j'ai un article sur Glénat qui arrive très prochainement, j'en ai un autre en cours d'écriture, le titre n'est pas encore défini, mais voilà, ça va s'enchaîner. Et puis sur l'entre-lepsiotique, pour Valiant, les news sont un peu limitées, il se passe beaucoup moins de choses en VF. Voilà, Bliss a un peu levé le pied sur les publications. Il faut dire que Valiant a eu un passage à vide récemment, donc il y a certaines séries qui sont extrêmement passables, qui du coup, je pense, ne sortiront pas en VF.
Donc, c'est pas plus mal
des fois, ouais, c'est clair.
Plutôt que d'inonder avec peu de qualité.
C'est ça.
On met les valeurs.
Après, vont finir par s'écarter du catalogue et tout. Donc,
tout à fait.
Vaut mieux rester sur la qualité. C'est ce qui, je pense que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Du coup, bah, y a moins de choses à dire, forcément. Sachant qu'en plus, le film a fait un flop en France. Le film Bloodshot, y aura pas l'engouement escompté. Il n'y aura pas tout ça. Donc, il n'y a pas trop grand-chose à y dire non plus. J'ai fait une review sur le film, si ça vous intéresse. Et puis, j'ai un article sur Face qui va arriver prochainement aussi, qui est fini d'écrire. Et je lance de temps en temps des fiches personnages pour creuser un peu l'univers Valiant. Je le fais au compte-gouttes, voilà, petit à petit, histoire de faire un peu d'actualité pour que je ne me retrouve pas avec aucun contenu à sortir. Donc voilà pour les nouveautés à venir.
Ça marche. Hein. Je te remercie encore une fois pour ton temps.
J'ai oublié de préciser que en ce moment même, j'ai un concours avec iComics pour gagner le premier tome de Bitterroot. Donc c'est bon, sur mon Twitter, ouais. Si ça vous intéresse. Sachant que la série est très très bonne et super d'actualité avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Donc je vous encourage à y participer. Il y a 3 tomes à gagner.
C'est très cool, je mettrai tous les liens vers ton Twitter et tes blogs dans les notes de l'émission du podcast, comme ça les gens pourront te retrouver sur les réseaux et partout sur les internets.
C'est gentil.
Et du coup, encore merci de ton temps. Pour nous, vous nous retrouvez sur le blog, sur les réseaux sociaux. On a toujours les articles qui sortent les mêmes jours, lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Sur l'Instagram. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à laisser soit un petit commentaire, soit à venir échanger avec nous, que ce soit sur les réseaux ou sur le blog, on reste dispo. Et si on voit la suite arriver en VF, on ne manquera pas de vous tenir au courant, et pourquoi pas de venir en reparler pour remettre un petit peu en avant à cette série un petit peu à mal d'amour.
Ouais, puis si jamais vous avez lu l'autre série, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Hein.
Ça fait. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut.
À la prochaine, merci.